restaurateur d'un lieu emblématique de l'histoire aéronautique du Béarn, la chapelle mémoriale de l'aviation aux portes de Pau.
This is your captain speaking. Please pay attention. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome on board.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Magaéro. Et aujourd'hui, le Magaéro et tout son équipage vous emmènent à la découverte d'un lieu de mémoire au sens propre du terme. Un lieu qu'un groupe de passionnés a restauré patiemment et entretient avec amour. C'est en voiture ou peut-être en vélo que vous irez en haut de l'Escar. C'est comme ça qu'on dit, à proximité des installations militaires de l'armée de l'air qui entre aviation légère, école des troupes aéroportées, force spéciale est ici très présente. Mais nous n'avons pas besoin de pénétrer sur l'une des emprises de l'armée. C'est bien en terrain libre que nous sommes, mais à proximité immédiate de toutes ces installations. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie aérienne, aéronautique du Béarn, des origines jusqu'à nos jours. Il y a quasiment 120 ans que les premiers aviateurs sont arrivés. De ces débuts, il reste en fait peu de traces, à l'exception d'une chapelle sur le bord de la route départementale 289, dite et bien nommée Route de l'aviation. Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau numéro du Magaéro Long Courrier. Et aujourd'hui, nous avons donc rendez-vous avec une équipe d'authentiques passionnés d'histoire de l'aéronautique, mais aussi de passionnés de conservation du patrimoine.
C'est le Magaéro sur la voie du Béarn.
Nous sommes donc aujourd'hui à la chapelle mémoriale de l'aviation, à l'Escar, au bord de la route départementale 289, mais ici tout le monde l'appelle route de l'aviation, comme par exemple le président actuel de l'association, Noël Potier. Noël Potier, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le président de cette association de l'Amicale de la Chapelle de l'Aviation.
L'ACMA, A-C-M-A. Bon. Amicale culturel et mémorial. Faut pas oublier que c'est mémorial suite aux plaques qui sont à l'intérieur de suite de la guerre de 14 et tout ça.
Bon, vous venez de célébrer très officiellement les 30 ans de la création de cette association.
Oui.
Bon, comment se sont passées les 30 premières années, même si vous n'étiez pas là au début?
Alors, effectivement.
Vous avez dressé un bilan.
Voilà, alors les 30 premières. J'étais pas là, effectivement. C'est le mérite Jean-Louis Grégoire, qui avait mal au cœur de voir cette chapelle tomber en ruine et qui avait décidé avec ses copains de la retaper. Et ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc moi, je suis arrivé vers les années 2000, 2010.
Un petit peu avant,
2007-2008, voilà. Et donc, je les ai côtoyés parce que, suite à un crash d'hélicoptère qui se trouvait à Barège, le fameux crash du Puma, sur...
Il a heurté une ligne haute tension.
Non. Un câble de débardage.
Un câble de débardage.
Qui, en 74, avait déjà eu la même chose, que l'armée avait repayé ce câble, mais avait demandé à ce qu'il soit signalé. Et pour faire plaisir aux écologistes, qui n'y a pas été, résultat, nous avons eu droit à un deuxième crash. Donc le Puma s'est crashé. Donc j'étais à cette époque-là le président des sous-officiers du 5e RHC. Donc on s'était dit, on va se cotiser pour se faire un monument à leur mémoire là-haut, à Barège. Donc on s'est cotisé, on a fait ce monument en mémoire en y incluant le crash de 74 pour y être tout de suite. On ne l'a pas mis évidemment au lieu du crash, on l'a mis au départ de Barège, on passe le ruisseau, le pont, on tourne à gauche et c'est sur le chemin, dès qu'on part, il est là. Et donc une fois tout ça fini, mes sous-officiers viennent me voir et me disent, président, il reste des sous. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc j'avais commencé à côtoyer les gens de la chapelle. Si je sais qu'ils cherchent des sous pour faire des vitraux, oh, ce serait la bonne opportunité. Donc j'ai été les voir. Je dis, voilà, si on vous paye un vitrail, mais que ce soit 5 Clotilde, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Et voilà comment on
l'a. La patronne de la lotte.
La patronne de la lotte, c'est ça. Voilà. Et donc on a créé ce vitrail. Et on leur a payé ce vitrail qui est 5 Clotilde, avec les hélicos, qui est très bien fait d'ailleurs, qui a été fait par monsieur de Bosdaros, Charon de Bosdaros, qui est très bien. Très beau vitrail. Donc voilà comment c'est connu. Suite à ça, bah, après j'ai pris la retraite et je suis rentré dans cette association et ils voulaient que je sois le président parce que Jean-Louis commence à avoir de l'âge. Mais comme j'ai travaillé chez TPR, j'ai dit non. Donc c'est Jean-Luc Meunier qui a pris la présidence en attendant que je sois en retraite. Une fois que j'étais en retraite, il m'a dit à toi l'honneur. Voilà, donc, et lui il a fait trésorier. Donc voilà comment ça s'est passé. Et depuis, ça fait depuis 2018-2019 que je suis le président de l'association. Voilà. Donc nos projets, eh ben, c'est d'avoir créé cette extension derrière la chapelle, qui fait comme si c'était une sacristie, parce qu'il ne fallait pas des. On voulait s'acheter un chalet pour mettre dans les jardins, parce qu'on a une association qui a été dissoute, l'association des transmetteurs qui a été dissoute, et qui nous ont fait cadeau de 15 000 euros. Donc on a dit, on s'achète un chalet, on le met dans les jardins, et on ramène nos archives qui sont entreposées à l'aéroport de Pau, on les récupère, on les met là. Sauf que nous sommes en zone verte, donc non constructible. Ah, j'ai dit, le chalet, c'est modulable. Non, pas plus de 3 mois. Je me voyais mal tous les 3 mois déplacer le chalet. Donc, et madame le maire, qui m'a dit, bah, attendez, on va regarder ce qu'on peut faire. Et donc elle m'a rappelé, elle m'a dit, voilà, il y a la loi Sarkozy qui existe, on a droit à construire 20% par rapport à la surface construite. Donc, est-ce que vous pouvez faire une extension? Ben, j'ai dit, sur le coup, les jardins, oui, sur le côté, il y a de la place, donc on fait. Et puis quand je suis remonté de la mairie en scout, j'ai dit, non, les vitraux sont un peu bas. J'ai dit, si c'est pour être voûté tout le temps, c'est pas bon. Puis en regardant, j'ai dit, il y a l'église. Il y a le chœur qui est en décalé. J'ai dit, si on fait encore en décalé, ça passe pour la sacristie. Donc on aura proposé ça et ça a été accepté. D'où cette extension qui est en train de se finaliser. Donc on a fait faire les murs, parce que vu les lois maintenant, on ne peut plus faire nous-mêmes. Par contre, l'intérieur, on le fait par nos bénévoles. C'est fait par nos bénévoles. On a un électricien, on avait un plaquiste. Et puis après, de la main-d'œuvre, des manutentionnaires qui étaient volontaires. Et voilà. Donc là, on a finalisé. Il nous reste faire les joints. Finir et pour après bah, repeindre et puis après ça sera fait. Et après on récupérera toutes ces archives qu'on ramènera dans ce bâtiment qui après on a un spécialiste qui va scanner tout ça pour pouvoir le mettre sur le site pour que ce soit ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse y accéder.
Alors en quelques mots, ces archives, elles viennent d'où, que sont-elles?
Alors là, il faut demander, c'est tous des gens, des dons qu'on nous a donnés, des gens qui avaient des choses...
Qui sont entrés à l'histoire de l'armée ici sur le terrain.
De 1909 à nos jours.
Oui.
On a l'historique de 1909 à nos jours, d'où le livre Pau-Pyrénées. C'est
ça. Oui.
Pau-Pyrénées, qui coûte 14 euros, qu'on a pu répertorier tout ça, qu'on a fait ce livre qui coûte 14 euros, d'où il raconte toute l'histoire jusqu'à nos jours. Jusqu'à dessus, même le 5e RHC, les portes ouvertes du 5e RHC, voilà tout ce qui existe jusqu'à nos jours. Voilà tout ça. Et donc, il y a beaucoup de choses encore à ressortir de là-dedans, mais il faut qu'on scanne tout ça pour. Donc il fallait un local pour faire ça. Récupérer tout, parce que l'ancien directeur de l'aéroport, M. Souchet, avait été margé sous mes ordres. Donc quand je lui ai expliqué le truc, il me dit, bah tiens, voilà deux bureaux, mets tes archives. Mais bon, il est pris la retraite. Maintenant, c'est M. Brice qui était son adjoint, qu'on se connaît bien, ça va encore. Mais le suivant, si on ne se connaît pas, il va me dire, j'ai besoin des bureaux, reprenez vos. Et là, c'est pas évident. Donc voilà le pourquoi du comment. Après, on a un projet qui est un blériot qu'on voudrait mettre à l'aéroport de Pau, qui est un projet avec notre mécène qui est M. Cancé, les établissements Cancé qui est notre mécène. Mais pour le moment, c'est un peu en stand-by parce que l'aéroport de Pau a des problèmes financiers. Hein, c'est pas gagné, donc pour le moment, on attend. Mais c'est toujours dans la poche parce qu'il faut savoir que l'aéroport de Pau était l'ancienne école Blériot. L'école Blériot était sur son placement.
Oui, oui.
Voilà.
Aussitôt après la venue des frères Wright.
Voilà, c'est ça.
Tous les constructeurs d'aéroplanes à cette époque-là
sont venus. Exactement.
Ici. Et l'armée est arrivée parce que les constructeurs
étaient là, bah, bien sûr. C'est exactement ça. Et donc, ça, on veut mettre l'avion de Blériot qui a traversé la Manche. On voudrait le mettre parce que c'était.
Le Blériot.
Voilà, le Blériot. Voilà. Donc, ça a été fait, la maquette a été faite par Bernard Treille, un très bel architecte qui est décédé il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Architecte très connu à Pau. Hein,
qui oui, Bernard Treille.
Voilà, c'est ça, qui était un ami. Et donc, il a fait le projet. Donc, je l'ai toujours dans la poche. La matière première chez Cancer, ils l'ont toujours. Maintenant, on attend l'opportunité, parce qu'il y a quand même une certaine somme à mettre, qui était promise par l'intercommunal de Pau. Mais bon, vu les problèmes d'aéroport, il m'a dit on va attendre un petit peu.
Je vous rappelle que le Magaïro est aujourd'hui à la chapelle mémoriale de l'aviation, route de l'aviation à l'Escar, c'est en Béarn. Et nous sommes avec un groupe de passionnés, actuellement avec le président de l'association, Noël Potier.
Après, ce qui nous reste, c'est qu'on entretient toujours cette chapelle. Elle est visitable tous les jeudis, parce que tous les jeudis, on vient et on entretient les jardins et la chapelle. Et puis, en même temps, ça peut servir des fois des lieux où on peut toujours faire des messes, des mariages, des baptêmes. Il y a 3 mois de ça, il y a eu 2 baptêmes de fait, des militaires qui ont voulu baptiser leurs enfants. Donc, l'aumônier militaire du régiment concerné m'a demandé si vous pouvez, bien sûr, et ils sont venus faire les baptêmes. Il y a eu un enterrement, puisqu'un des anciens fondateurs de la restauration de la chapelle, il a voulu faire sa messe d'enterrement à la chapelle, elle a été faite à la chapelle. Donc voilà, en gros, où on en est aujourd'hui. Donc on est 100 quelques adhérents.
130 ou 140.
130 ou 140 à peu près, hein, quelque chose près d'adhérents, qui sont de partout. De partout de la France, même des fois d'outre-mer, parce qu'il y a les descendants des frères Vaille qui cotisent toujours. Donc, vous voyez, ça va loin. Et ça nous permet de faire. Et c'est le côté convivial que l'on veut, et surtout des amoureux de l'aéronautique. Parce que dans cette association, vous avez d'anciens militaires de l'armée de l'air, de la LAT évidemment, mais aussi vous avez des commerciaux, vous avez des gens anciens gendarmes, vous avez un électricien, tous des gens amoureux de l'aéronautique. Voilà comment marche cette. Et c'est tout en bonne intelligence, en bonne famille. Voilà. Et le summum, c'est que pour les 30 ans, nous avons eu la chance d'avoir l'ancien évêque de Bayonne, qui est en retraite, qui est venu nous faire la messe pour les 30 ans. C'était sublime.
Monseigneur Moller.
Voilà, bien. Voilà, c'était lui. Il était tout heureux. 93 ans, il nous a fait une super messe. C'était super. Donc les gens ont apprécié. Et après, c'est les arpètes. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est les arpètes.
Les apprentis de l'armée de l'air.
Voilà, c'est ça, dont leur école est à Sainte. Ils sont venus nous préparer, nous sont venus nous faire une paella grandiose, sublime. Ça a été une superbe journée. Voilà. Et madame la maire de l'Escar est venue manger avec
Valérie
nous.
Ruel.
Valérie Ruel est venue manger avec nous. Il y a eu le président de l'amicale des parachutistes qui est venu. Il y a eu le vice-président de la vallée d'Ossau, parce que nous sommes quand même sur leur terre. Pour le moment, ça appartient à l'évêché. Mais dans 2 ans, c'est la vallée d'Ossau qui va le récupérer. Car l'évêché n'a pas les moyens de pouvoir conserver cette chapelle et après payer les frais, payer les taxes qu'il faut envers les mairies. Quoi.
Oui, parce qu'historiquement,
c'est les 100 ans.
Ces champs d'aviation, ils ont été installés sur la lande du Pont-Long, qui était propriété des bergers
de la vallée du Haut-Ossau.
Voilà,
du Haut-Ossau. Qui, eux, n'ont jamais vendu leurs terres, alors que le Bas-Ossau ont vendu leurs terres. Alors que le Haut-Ossau n'a jamais vendu leurs terres. Donc tout le secteur leur appartient. Et Dieu sait s'il est grand. Hein. Parce que le centre d'équitation, ça leur appartient.
Intermarché, tout.
Intermarché, c'est chez eux. Le lac du Duzin, c'est eux. Il faut voir le rayon d'action qu'ils ont. Mais c'est des gens très bien, très sympas. Et donc dans 2 ans, on a vu avec eux, parce que qu'est-ce qu'on devient? Et ils ont dit, pas de problème, ils vont voir avec leur notaire pour faire ce qu'il faut pour qu'on en ait la jouissance pour le franc symbolique. C'est qu'on continue à faire vivre cette chapelle pour le franc symbolique, même si ça sera eux. Mais on pourra, écoutez, parce qu'il dit, nous, de la vallée du Haut-Ossau, on ne peut pas s'en occuper. Quoi. Et on est trop content que vous vous en occupiez. Donc voilà. Et donc c'était le vice-président, Roger Lassibi, qui est venu. Voilà. Voilà tous ces gens-là qui étaient là. On a eu aussi le représentant des vieilles pierres de l'Escar qui est venu aussi. Non, c'est, voilà. On est en relation avec tous ces gens-là. On est en relation aussi avec évidemment le musée de la Résistance, qui est un collègue aussi, qu'on s'entend bien. Donc voilà, on s'échange des choses. Quand on a des choses, l'autre fois, il cherchait du câble pour relier les EE8. Bon, bah, par relation, j'avais des copains. Ah, j'ai du câble, tac. Et voilà, ça y est, il va pouvoir relier ces deux EE8 pour faire, quand les gamins viennent visiter, leur faire montrer ce que c'est qu'un EE8. Ils vont être, voilà. Donc voilà le but, c'est ça, c'est de rayonner et de faire connaître cette chapelle, ce mémorial, puisqu'il y a quand même des gens de 14-18, vous avez vu la liste qu'il y a, des gens qui sont morts en 14-18,
oui.
Et qui ne sont pas morts pour la France, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient en formation de pilotage. Donc ils sont morts en service, mais pas morts pour la France, ce qui est totalement différent. Il y a combien, un mois et demi de ça, 2 mois, bon, mettons 2-3 mois, il y a une famille d'Uruguay qui est venue visiter cette chapelle. J'ai dit, tiens. Bon, je parle pas espagnol, je parle pas portugais. Heureusement, le petit-fils, il parlait français. Parce que ses parents travaillent au COET, et lui, il est à l'école française du COET. Donc, il parlait français, heureusement. Et je lui dis, mais comment vous connaissez ce chapelle? Ben, pas plus que ça. On vient sur les traces de notre ancêtre qui était venu pour la guerre de 14 pour apprendre à être pilote, pour être formé pilote. Et il est mort. Ici, donc on essaye de chercher. Et donc, bah, j'ai dit, bah, attendez, là les plaques des gens qui sont morts en formation, et là, on a trouvé son nom, il était là. Sublime. Hein, donc son nom était là, donc il pleurait, et c'est beau. Voilà, donc ils ont vu que leur ancêtre était là, qu'on ne l'avait pas oublié, qu'il était sur la plaque. Voilà, capitaine Rossolanza.
Oui, peut-être.
Rossolanza, voilà. Et c'était sublime, quoi. Donc voilà les faits des moments sympathiques, quoi. Pareil, l'autre fois, il y avait une fille, je fermais la chapelle, une dame s'arrête avec la voiture, elle vient me voir, elle me dit, voilà, je suis chercheur, ok, bien ma sœur, je suis violoniste à l'Orchestre National Français. Ok, et pourquoi vous venez vous arrêter pour voir cette chapelle? Ben, je viens pour voir cette chapelle pour la simple et bonne raison que mon papa était parachutiste, mon père est mort, mais ma maman habite toujours Sauvagnon, et j'ai toujours passé devant cette chapelle sans jamais pouvoir la visiter, et papa m'en parlait tout le temps. Donc, est-ce que je peux la visiter? Ben, j'y venais. Donc, c'est une chercheur qui est à Paris, à la grand orchestre, je sais pas comment on appelle, le RTL ou je sais pas quoi de là-bas, ou l'ORTF. Elle a attendu, elle a 30, 40 ans, elle venait voir la chapelle. C'est beau. Voilà plein d'anecdotes comme ça, ou quelqu'un qui vient qui dit, ben, j'ai été baptisé là. Ah bon? Ben oui, mon papa était militaire à la base aérienne, et quand je suis né, j'ai été baptisé là. Voilà des choses sublimes que quand on voit ça, on peut que continuer à faire vivre cette chapelle. Voilà le but.
Mon but était de vous poser au-delà des 30 premières années comment vous voyez les 30 suivantes.
C'est pas mal.
Vous venez déjà de nous le décrire, il y a encore plein de monde qui va venir
découvrir
cette chapelle. Mais... parce qu'un ascendant est passé partout,
entre autres,
il y a un rapport avec la chapelle.
Et même des touristes, parce que c'est un lieu de passage de Saint-Jean-de-Compostelle aussi.
Oui.
Donc il y a des gens qui voient, on est sur le routard. Ça aussi.
Oui.
Étant sur le routard, il y a des gens qui veulent voir cette chapelle. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que... Mais même les gens de Pau et les Lescariens et tout ça, beaucoup ne la connaissent pas. Tout le monde ne connaît pas la chapelle. La preuve, beaucoup d'associations maintenant qui commencent à entendre parler de la chapelle viennent, me demandent pour venir visiter. Alors, la visite, c'est... On fait payer 1 € par personne, ce qui nous permet d'entretenir cette chapelle, quoi. C'est le but. Voilà, pour dire qu'il faut... pour aider. On demande 1 €, et bien souvent, les gens, d'ailleurs, donnent plus. Donc voilà, et ça nous permet de continuer à entretenir cette chapelle.
Entre deux émissions, retrouvez le Magaéro sur notre page Facebook.
Mais pour l'instant, nous sommes encore au cœur de l'émission de la semaine. Nous sommes à Lescar, à la chapelle mémoriale de l'aviation, route départementale 289, mais si vous demandez votre route, demandez la chapelle qui est route de l'aviation. Il est à peu près certain que beaucoup de monde pourra vous indiquer le bon itinéraire à suivre. Après le président actuel de l'association, eh bien, nous allons rencontrer le président désormais d'honneur, mais surtout la mémoire vivante de la restauration de la chapelle, Jean-Louis Grégoire. Jean-Louis est celui qui a dit « on ne peut pas laisser tomber ce truc-là ». Mais il va vous le raconter. Jean-Louis Grégoire dans le Magaéro.
Bon, Jean-Louis, si on parlait un peu de cette chapelle, dans quel état était-elle quand vous avez été quelques heures à vous dire il y aurait un truc à faire pour sauver cette ruine?
Quand on a, c'est-à-dire le soir en passant, j'ai vu que c'était une catastrophe, qu'elle était recouverte de sapins et de ronces, qu'elle était squattée, qu'elle était à l'abandon, quoi. À côté de ça, il y a l'Asgrec qui était en train de faire un rajout sur la route et il m'avait dit on va casser tout ça, on va l'enlever. Alors la nuit, il m'a porté conseil, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai passé de suite, le lendemain matin, j'ai téléphoné de suite à mon ami Loulou Casal. J'ai dit Loulou, voilà ce qui se passe, la chapelle va être rasée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais je suis avec toi. Bon. Alors, là, j'ai retrouvé des anciens qui étaient sur l'escar, puis ceux qui m'ont rejoint de suite, on a fait une association. Et puis, mais après, il y avait le diocèse qui était propriétaire de l'intérieur. Et ça les intéressait pas beaucoup de garder cette chapelle qui était...
Parce que la chapelle restait quand même consacrée, même en mauvais état.
Oui, mais le diocèse me dit, enfin, le diocèse, le vicaire général me dit, on peut fermer, mais dès qu'on a fermé, on nous coupe la chapelle, enfin, on coupe la chaîne, et puis les gens, les squatteurs se mettent dedans, c'était vraiment squatté. Hein. Et alors, j'ai dit, bon, ben, là, il n'était pas très chaud pour la faire refaire. Et je suis venu à Pietat avec mon épouse, et elle me dit, regarde qu'est-ce qu'il y a. L'abbé Bachet. L'abbé Bachet était vicaire à l'Escar, il me connaissait déjà, il était à peu près du même âge. Et en tout temps, il avait circulé. Et quand il a été, quand j'ai été le voir, je lui ai dit, voilà ce qu'il veut pour ce que je vous demande. Ah, oui, quand tu veux, bon, on prend rendez-vous, on arrive chez le vicaire général, et il me dit, je ne le voyais jamais arriver. Mais j'ai dit, on va aller chez, je vais être encore. Non, il est arrivé. Quand ça a été le moment, le vicaire général posait la question, il est bâché, il dit, oui, il faut lui donner. Bon. J'ai eu le vicaire général qui était d'accord, mais il m'a envoyé quand même un huissier de justice pour voir, parce qu'il paraît qu'elle est fendue. Elle est toujours, elle le sera toujours. J'ai dit, mais elle n'est rien. J'ai pas eu de rôle dans la cause. Alors, dès qu'on a réussi à avoir cette autorisation, il a fallu s'intéresser un peu au bail amphithéotique. Personne ne répondait, c'était l'arme de l'air qui avait construit ça avec les pilotes de 14. Je ne savais pas trop, alors. Personne ne répondait. C'était très difficile à trouver le moment venu pour arriver à dire c'est un tel ou tel. Non, tout le monde se carapatait.
Oui, parce que cette chapelle-là, elle avait été construite pendant la guerre de 14. À ce moment-là, il y avait une base aérienne ici à Pau.
Oui, la base aérienne de Pau est une des premières des tirs d'aviation de Pau. C'est un des premiers c'est le seul qui a fonctionné depuis ce début jusqu'à maintenant.
Voilà.
Il y a toujours eu un avion qui s'est posé, il y a eu des conversions, ce qui fait que tout le monde a parlé de la base de Pau. Alors cette chapelle, on a réussi comme ça à avoir un petit peu le pied sur terre. On a dit, mais d'ailleurs, voilà qu'on voit comment on peut faire. Et on a n'avait pas un sou, vous n'avez rien.
Et ça, c'était en 1995, donc il y a 30 ans.
Oui, à peu près, il y a 30 ans. Là, on avait bien des intentions, mais on n'avait pas de sous. Comment faut-il faire? Alors, on avait, pour finir d'avoir l'autorisation aussi, on avait le colonel Adias. Qui était vieux chevalier de l'armée de l'air, qui avait fait tous ses débuts là et tout, et qui me dit, mais je alors évidemment il est venu sur notre programme, il m'a dit, mais je vais téléphoner à comment ça s'appelle, l'infirmière.
Geneviève de Gala.
Alors Geneviève de Gala, qui a dit oui, parce qu'elle y a vécu ici. Elle était plus ou moins aidée par son oncle, qui était le patron de du théâtre d'aversaire. Elle était pour orpheline assez jeune. Alors elle est venue. Après, elle est revenue d'autres fois avec son mari, qui est très, très aimable aussi. On a réussi à monter un petit quelque chose. On a dit, maintenant, on va demander un peu d'argent. Alors, on a fait une première demande au Conseil Général pour avoir 1000 euros, 1000 francs, pour commencer à voir. Alors, on demandait à la... Refusé, pourquoi? On n'en sait rien, refusé. Loulou, qui connaissait bien Luc Béret, Luc Béret, bon, écoutez, je vais voir. Donc, Luc Béret, après, nous fait avoir 1000 euros. Je les remercie d'ailleurs, parce que ça remonte le moral. Et après, j'ai rencontré le comment ça s'appelle, le maire de Coise.
Jean Saint-Josse, qui est conseiller régional.
Voilà, c'est lui. Alors, il m'a dit, écoute, je ne sais pas, tu demandes à mon adjoint. Alors c'était un instituteur qui lui servait, qui est très gentil. Alors il m'a dit, écoute, je ne peux pas te dire 1000 francs, je ne sais pas, mais 500, oui, mais je te promets, tu auras les 1000, mais en deux fois. Et bien sûr, on a eu des 1000 euros. Après, on a eu M. Noirot, je me souviens français, il me dit, pour les plaques, là, alors les plaques, quand ça a été fait, parce que les plaques, on les a cherchées pendant deux ans.
Ces plaques, qu'est-ce que c'est?
Les noms des morts. Alors, ces noms des morts, ils avaient disparu des faits à la pension au Seigneur, c'était une catastrophe.
C'était brisé.
Non, les plaques elles-mêmes, on les installait, mais tous les cadres, on fallait refaire les cadres.
Oui.
Alors, M. Noirot nous a donné 500 francs pour refaire les trucs. Mais ça, quand on a eu les retours, les plaques. Et puis là, après, ça a enchaîné. On arrive à Louis Jusson, chez le marchand de travaux. Loulou nous le connaissait un peu comme ça. Il me dit, attends, on va demander. On a parlé avec lui. Ah, mais il me dit, mais j'étais pilote pendant la guerre au Maroc. Et tout. Là, du jour au lendemain, on a été un petit peu connus. Alors, il nous a fait des prix sur l'ardoise, les lattes, et tout. Et puis là, j'ai fait faire des devis. Je suis tombé avec des devis de 8000 francs pour refaire ça. On ne pourrait pas le faire. Alors, fallait-il faire? Je trouve un gars qui était d'origine portugaise, qui était de charpentier. Et je lui dis, bah, vous nous feriez un... Oui, vous faites un devis. Il nous a fait un devis de 3000 francs. Et après, quand ça a été fini, je nous ai sorti 500 francs parce qu'il y avait chez nous un gars qui avait fait sanitaire, qui a fait toutes les gouttières et tout ça. Et on a commencé. Après, on a perdu. Alors l'intérieur, c'était rouge, jaune, canari, et tout le corps, c'était rouge. Alors, il a fallu des pires, tout ça, arrangé. Bon, il est arrivé. Pas tout à fait à notre fin, mais on avait bien avancé. Parce que la bordure là, il y avait Ourdebec, on était au Palais de Repos, que j'ai convoqué en toute chasse. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a de fou ? Il nous faut un peu de ciment, des pipés, tout ça. Il me dit, pas de problème, il me dit, je m'en occupe. Il est allé voir le directeur de Castorama, ou de comme ça. Et on est allé là-bas, on est allé chercher tout le treillage, tout gratuit. Après arrive le paysan du coin, là, il a son portail. Vous avez le portail ? Non, on n'a pas le portail.
Parce que vous aviez installé les piliers, vous les aviez construits, mais il n'y avait
oui,
pas
encore
le portail.
Oui, c'est nous qui avons tout construit. Oui. Tout ceci, c'est nous. Et là, on fait le. Au portail, il me dit, comment vous allez la payer? On n'a pas d'argent pour l'instant. Il me dit, attends, vas-y. Il me donne 3000 francs, il me dit, va chercher des portails. Partout, on avait plein de gentillesse. J'en passe parce que...
Mais alors, Jean-Louis, je vais vous demander quand même, parce qu'on parle de 95, ou un soir, vous vous dites, bon, mais... Le gros des travaux, ça a été mené sur combien de temps? Un coup de 500 francs, de 1000 francs avec des aides diverses et variées. Vous avez mis combien d'années pour qu'elle soit représentable?
30 ans, pratiquement jusqu'à maintenant, parce que là, c'est reparti. En 30 ans jusqu'à maintenant. On a fait beaucoup de travail en 30 ans. J'ai pensé que, quand je suis rentré de l'armée de l'air, j'ai resté à Beaux-Arros. Et je me suis retrouvé avec des jeunes qui construisaient leur maison. Et alors, ils avaient un système, c'est que certains faisaient la maçonnerie, quand ils avaient des dalles à couler, des trucs comme ça, hop, ils se ramassaient les uns les autres entre eux. J'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça? On l'a fait avec les jeunes, avec nos anciens. Ils sont venus, ils nous ont aidés. Tout le monde travaillait. Il y en a un qui était armurier, il me dit, mais moi je sais rien faire là, viens, on l'avait mis au pied de l'échafaudage, on lui mettait le seau, il remplissait ses ardoises dans le seau, et nous les avons montés jusqu'à, et les gars posés. Non, ça a été merveilleux, ça a été une période merveilleuse, c'était très dur parce que je ne savais pas du tout où j'allais. J'avais un copain qui était ingénieur en travaux publics, que je l'avais fait venir, je lui ai dit, viens voir un peu comment ça se passe. Il m'a dit, c'est faisable, mais alors il y a du boulot. Hein. Mais oui, il y a du boulot. Mais il m'a dit, tout est faisable. Effectivement, on est arrivé à tout. Après, c'était pour les vitraux. Il y a les vitraux, le vitrail, il reste là, l'échantillon, il est à l'extérieur. Mais il a fallu les vitraux. Alors ça a commencé par celui du Saint-Bernadette, parce que là aussi, les anciens, ils avaient décidé ça. Jeanne d'Arc. Et c'était en pleine campagne électorale. Voilà. Alors, je ne vous dis pas.
Donc, Jeanne d'Arc qui a vendu
une connotation. C'était transposé, comme d'habitude.
Voilà.
On se servait de ça pour dire des conneries. Enfin, les anciens l'avaient fait, on l'a continué. Après, il y a une dame, Madame Letien, qui était aussi, on en parlait l'autre jour, si je cherchais le nom, c'est Letien. La maman avait son père qui était aviateur. Elle est allée chez sa banque et elle leur a dit, je suis en difficulté, je cherche un peu d'argent. Du coup, ils ont payé à monter les vitrailles. Ça a commencé comme ça. Alors les vitraux, c'est les autres. Il y a une dame qui l'a marqué parce que son mari était aviateur, elle a fait faire le vitrail. Après, c'est le cinquième RHC. Pardon. C'est le caméra chaussée qui avait eu un accident à Marège, qui restait un peu d'argent. Et le colonel me dit, il me reste un peu d'argent, je ne sais pas quoi en faire. J'ai dit, nous on prend pour le vitrail. On l'a pris, on avait le vitrail, on leur a fait le vitrail. On y a participé. Il y a un autre pilote de chasse que j'ai eu la chance de connaître, qui était sur le pont, il organisait des voyages. Il m'a dit, je vais te le payer, je vais te le payer. Il a payé le vitrail. Il l'a dit, le guide-mère, c'est lui qui l'a payé. Bon. Après, c'était le général Barras qui me fait un dessin. Il me dit, il voudrait me le faire comme ça. Il m'a fait faire ça par une dame de Montmartre. Hein. Et après, c'est la dame du président de la chambre de commerce qui a un truc ici, là,
Madame de Stamba.
De Stamba. Qui m'a donné des engraisses et de sérieux coups de main pour prendre les braves Américains qui sont là. Ils ont été très gentils, qui sont venus d'autrefois. C'était très sympathique. C'est dommage parce que il y avait beaucoup de choses à faire. On a tout laissé tomber, on ne sait pas pourquoi. Personne ne s'est intéressé. Cette base était de très beaux hangars Eiffel qui n'avaient pratiquement rien. Il fallait les refaire par la couverture.
Oui, là on est sur l'environnement global, sur toutes les constructions qui avaient trait à l'aéronautique.
Mais oui, mais pas la toute première aéronautique.
C'est le Magaéro.
Et vous vous seriez laissé emporter encore dans les histoires de la chapelle de l'aviation et dans l'histoire de l'aéronautique en Béarn? Eh bien, promis, nous y reviendrons avec Jean-Louis, Noël et tous les autres. Et il y a aussi des autres au féminin dans cette équipe-là, même si aujourd'hui vous n'avez entendu que deux messieurs. Nous les rencontrerons tous et toutes à nouveau, promis, dans deux futurs numéros. Merci de votre fidélité. Bonnes vacances si vous avez la chance d'être en villégiature ou que vous soyez dans le monde d'ailleurs, puisque vous nous écoutez aussi par Internet. Vous nous écoutez en Béarn, en Pays Basque, en Pays Girondin. Merci à toutes, merci à tous. Bonne semaine et à très bientôt sur cette même antenne.
Thank you.